Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Les conflits, ils sont partout, certains finissent par y voir là une habitude inéluctable, pourquoi pas vertueuse même quand d'autres s'en désolent et ne peuvent se résoudre à vivre en étant toujours en conflit. Question de caractère ou de latitude, dit-on, quoi qu'il en soit, les conflits sont source de souffrance au travail et de pertes importantes de productivité. Alors comment faire face aux conflits? Des solutions, des outils existent-ils? Y a-t-il une manière chrétienne d'envisager les conflits? C'est ce que je vous propose de voir ensemble ce matin. Vie d'entreprise et gestion des conflits, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec, pour nous en parler, autour de la table, honneur aux dames, Camille Audemars, vous êtes médiatrice, membre d'une équipe du MCC en Haute-Garonne, mouvement chrétien des cadres et dirigeants, bonjour.
Bonjour.
Est avec nous aussi Bruno Batty, vous êtes directeur de l'assurance maladie du Tarn-et-Garonne et membre d'une équipe des EDC, membre et responsable pardon, d'une équipe des EDC dans le Tarn-et-Garonne, on imagine aussi, EDC donc entrepreneur et dirigeant chrétien, bonjour.
Bonjour.
Et Michel Martin Prével, plus connu de nos auditeurs, prêtre religieux de la communauté des Béatitudes et accompagnateur d'une équipe des EDC, bonjour.
Bonjour à tous.
Cette émission qui est donc la dernière d'une série annuelle, pour rappel, sur la vie d'entreprise en partenariat donc avec les EDC et le MCC. On s'est régalé tout au long de cette année à essayer de voir comment petit à petit les membres de ces deux grandes associations essayent de vivre de la doctrine sociale de l'Église et Dieu sait si le chantier est grand. Aujourd'hui, gestion des conflits, donc c'est pas forcément un thème de la doctrine sociale de l'Église, mais les deux mouvements ont tenu à finir par ce sujet, peut-être pour passer un bon été. Je voulais commencer par quelques chiffres ou quelques constats avec vous, Père Michel Martin Prével, puisque vous avez été désigné pour cette première partie plus théorique. Eu égard à votre grande connaissance des couples, je me suis dit qu'on allait commencer par parler un tout petit peu des couples, pour dire quand même la réalité des conflits. Alors j'ai lu que les couples se disputaient en moyenne une fois par jour. Est-ce que ça vous surprend comme chiffre? C'est un sondage BFM RMC.
Ça me semble un tout petit peu exagéré, mais plusieurs fois par semaine certainement. Mais je crois qu'il faut souligner que les disputes, puisqu'on en parle, les conflits, ça fait partie de la vie humaine. C'est donc pas toujours quelque chose de dramatique. Il y a bien sûr des degrés dans les conflits qui font que quand c'est très grave, il faut certainement faire des choses. Mais il n'empêche que c'est le choc, en fait, le choc des différences. Et ça, c'est au cœur de toute vie humaine. C'est pour ça qu'on va trouver des conflits, bien sûr, dans la vie conjugale, la vie familiale. Mais on va la retrouver dès qu'il y a des hommes qui sont ensemble et aussi pour œuvrer. Et il y a aussi cette réalité d'un bien commun que les hommes cherchent ensemble. C'est le cas dans une entreprise. Et en même temps, il y a les différences qu'on ne peut pas réduire les hommes à la même individualité. Et c'est pour ça qu'il y a cette rencontre, en réalité, d'antagonisme. Et en même temps, c'est le cœur de toute vie humaine, c'est d'arriver justement à travers ces différences, à travers ces complémentarités, à trouver de l'unité, à trouver des initiatives qui emportent la totalité d'un groupe.
Alors Michel Martin Prével, est-ce à dire qu'en fait il faut faire le deuil de vivre sans conflit, en fait, que ça n'existe pas ou que ce n'est même pas souhaitable?
C'est pas simplement à cause du péché originel, mais ça fait partie de ce que nous sommes créés avec des différences fondamentales, des différences d'histoire. On a des histoires différentes, mais aussi on a des opinions, on a des valeurs différentes. Et tout ça ressort assez vite, bien sûr, dans la vie de l'entreprise.
Alors à propos de la vie de l'entreprise, j'ai trouvé un autre sondage, lui qui a été publié dans un article de West France il n'y a pas très longtemps, en tout cas en 2018, disant que les deux grandes sources de souffrance au travail, c'était donc l'épuisement et les conflits professionnels. L'épuisement, on en parle souvent, hein, puisque maintenant le burn-out a même été reconnu comme une maladie professionnelle. Les conflits professionnels, c'est probablement le quotidien de beaucoup. Ça vous surprend ou pas ce chiffre?
Non, et on voit bien que c'est parce qu'il y a des intérêts qui sont convergents au niveau d'une même entreprise, mais en même temps, ils restent divergents au niveau des personnes. Et c'est constamment cette adéquation des appréciations et des particularités de chacun qu'il faut mettre en regard d'un bien commun, de quelque chose qui est à mettre en œuvre pour que toute une équipe participe à une même œuvre. Donc c'est une sorte de gageure permanente dans une entreprise. Et je crois que c'est l'essentiel d'un chef d'entreprise, c'est de faire l'unité avec des personnes qui sont chacune très différentes.
Camille Audemars, vous voulez dire quelque chose ?
Oui, en fait, étymologiquement, le terme conflit signifie le fait de lutter ensemble. Et donc lutter, oui, mais on est ensemble dans cette lutte-là. Et le conflit fait partie de la vie personnelle, elle fait partie de la vie professionnelle, elle est ancrée dans notre vie.
Voilà, précision importante. Étymologie, j'imagine, étymologie latine en l'occurrence.
Tout à fait,
oui. Conflictus.
Conflictus. Mm-hmm. On pourrait dire aussi, alors il ne s'agit pas de commencer par une analyse sociologique de la société française, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête qu'il y a peut-être aussi une culture française du conflit. On en a beaucoup parlé à l'occasion de la crise des Gilets jaunes. J'ai trouvé un document que j'ai à peu près recoupé, qui laisse entendre que les Français sont les champions du monde de la grève, et que le droit de grève a même été reconnu en France, ai-je vu, avant le droit à se syndiquer. Donc il y a aussi peut-être une culture du conflit.
De fait, oui, c'est un peu Astérix, hein, c'est les Gaulois, quoi. C'est vrai qu'on a cette tendance à râler, à être même quelquefois trouver une certaine joie à se disputer. Donc ça, c'est peut-être plus proprement gaulois, mais je pense que quand même c'est le fondement de tous les peuples. Ça, c'est parce que je précise, c'est universel le fait qu'on n'est pas on est différent. Et dans les différences, implique des différents.
À propos du bien commun, vous avez cité le bien commun, et à vous entendre, en fait, la difficulté, c'est que de poursuivre le même bien en ayant peut-être des idées différentes de ce bien et en étant chacun différent, c'est forcément source de conflit. La définition de l'Église catholique est la suivante. L'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Je vais la relire. L'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Dans cette définition, il y a déjà une tension, c'est arriver à viser le bien de tous et de chacun, c'est un peu mission impossible quand même, non ?
Absolument, c'est la tension entre l'unité et la diversité, c'est la tension entre le bien commun et le bien particulier, sachant que ce qui est premier, c'est le bien de la personne, du moins dans la pensée de l'Église. La pensée sociale de l'Église, c'est le bien de la personne qui est toujours premier. Mais bien sûr, ordonner aussi au bien commun. Et dans l'entreprise, on trouve effectivement cette problématique d'avoir à tenir le bien commun, mais en faisant attention au bien des personnes. Et c'est parce qu'on valorise la personne dans l'entreprise, ça c'est toujours la pensée sociale de l'Église, parce qu'on valorise la personne qu'on peut effectivement amener du plus au niveau du bien commun.
Mais donc il faut travailler en fait à vouloir le bien de chacun, à valoriser chacun, tout en arrivant à emmener tout le monde dans une direction qui est le bien, c'est ça ?
Tout à fait. Et ça, de fait, c'est quand même un certain exercice d'équilibre.
Voilà, on comprend que les chefs d'entreprise s'arrachent les cheveux. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez souligner qui sont souvent en fait les grandes causes de conflits, Michel Martin-Prével, dans la vie de l'entreprise ?
Oui, on voit bien qu'il y a des conflits dans des entreprises, pas d'abord parce que ce sont des personnes entre elles. Ça, on peut dire que c'est des conflits humains au niveau de personne à personne, mais c'est aussi parce qu'il y a des objectifs professionnels globaux qui sont à suivre pour tout le monde et certains ne sont pas d'accord. Il y a aussi la question qui est purement le management ou la méthode qui peut être mise en cause et qui peuvent être critiquées par certains. Ces conflits aussi, on les retrouve entre des personnes singulières, mais ça peut être aussi entre des groupes au sein d'une même entreprise. Ça peut être aussi un chef qui est en conflit avec tout le reste. Voilà, donc il y a des degrés différents suivant la façon dont les personnes sont entraînées dans ces conflits. Il y a les affrontements aussi tout simplement d'opinions et de valeurs, parce qu'on ne peut pas séparer le travailleur de toutes ses opinions propres, ses valeurs. Et, par exemple des valeurs religieuses, c'est tout ça aussi qui peut entraîner certaines difficultés. Et puis, il y a tout simplement le fait que les besoins des personnes, des besoins souvent concrets, ça peut être physique, psychologique, interfèrent aussi dans sa mission et dans son travail proprement dit. Et un bon chef d'entreprise fait attention aussi à ce qu'on appelle plus la vie privée aussi de la personne, au sens où ça a des conséquences dans son engagement professionnel.
Camille Audemars, oui, vous
voulez. Et juste pour ajouter aussi, la manière de communiquer va être aussi très différente d'une personne à une autre. Et la manière d'interpréter aussi chaque parole peut être différente d'une personne à une autre. On peut gérer une situation compliquée de manière totalement différente parce qu'on réagit de manière différente. Typiquement, face à un conflit, il y a plusieurs manières de réagir. On peut être dans de l'affrontement.
Il y a ceux qui détestent le conflit et ceux qui aiment ça aussi, déjà, pour commencer, non ?
Oui, donc ceux qui aiment ça, ils seront peut-être plutôt compétitifs à vouloir gagner sur l'autre, à écraser l'autre. D'autres, au contraire, à se laisser écraser. On pourrait dire ça de manière... On pourrait parler des soumis, typiquement. Ceux qui vont être dans le compromis, bon, je te donne un petit peu, mais pas totalement, mais j'essaye de... Voilà, j'aime pas trop le conflit, mais j'interviens, je te donne un petit peu, mais je rentre pas trop en profondeur. Ceux qui vont éviter le conflit, c'est une manière de se protéger. C'est trop violent pour moi, je pars de la salle, ou je me tais, ou je ne réponds plus. Et puis, l'approche sur laquelle on devrait tous tendre, c'est celle de la collaboration, finalement.
Alors
de traverser le conflit.
On en parlera après. J'avais une dernière question pour poser un peu le contexte. C'est qu'on a l'habitude de dire que la vie d'entreprise est aujourd'hui plus violente. Alors, eu égard à votre expérience, vous n'avez pas encore un âge canonique, Michel Martin Prével. Voilà, le procès France Télécom dont on a parlé récemment est quand même aussi le procès d'une époque et d'un certain type de management, même si on peut espérer que ça aille mieux. Les burn-out sont reconnus aujourd'hui comme maladie professionnelle, c'est bien quand même qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que ça aussi, c'est à prendre en compte ?
Ça souligne justement que quand on néglige l'intérêt particulier, l'intérêt des personnes, et que l'on met en exergue et d'une façon absolue l'intérêt de l'entreprise au mépris même de la personne, de fait, on arrive à des situations comme celles que vous citez. Donc ça, c'est, je crois, important d'équilibrer justement le bien des personnes avec le bien de l'entreprise. Il n'y a de richesse que d'hommes. Je crois que c'est Mallarmé qui disait ça. Ça veut dire qu'une entreprise ne se porte bien que dans la mesure où les hommes sont bien eux-mêmes, dans un certain bien-être, et qui fait qu'ils vont arriver d'ailleurs au maximum de leurs compétences et de leurs qualités. Et cette vision-là qui remet l'homme finalement au centre de l'entreprise, c'est pas simplement dans le sens d'une simple productivité que l'on cherche meilleure, mais c'est aussi parce que l'esprit de l'entreprise, comme on dit, change quand la personne est remise à sa place. Et ça, c'est très important pour des chefs d'entreprise, justement, de ne pas négliger l'intérêt particulier, parce que, je le redis, dans la doctrine sociale de l'Église, finalement, c'est, au bout du compte, c'est l'intérêt des personnes qui est supérieur même à l'intérêt de l'entreprise.
Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est comme ça que l'Église pense et essaye de remettre les choses à l'endroit pour finir avant qu'on fasse une dernière pause ?
Parce que, tout simplement, l'homme a une certaine vocation d'éternité que n'a pas une entreprise. Une entreprise, c'est une œuvre qui est finalement partielle. Elle est là pour apporter quelque chose au niveau de toute la société. Mais ce qui compte, c'est, je répète, cette vocation éternelle de l'homme qui demande un investissement très différent.
Alors, on va changer un tout petit peu notre programme. On parlera des solutions et des expériences dans la deuxième partie. Je propose qu'on fasse une première pause et qu'on vous retrouve dans quelques instants pour entendre donc vos retours d'expérience et puis les pistes de solutions. On va parler entre autres de la communication non violente, évidemment de la médiation et autres outils.
Thank you. présence.
Vivante Église. Emmanuel Pella.
Vie d'entreprise et gestion des conflits, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, émission en partenariat avec les EDC, le MCC. Et pour ceux qui nous prendront en cours de route, nous sommes avec Michel Martin Prével, prêtre religieux de la communauté des Béatitudes et accompagnateur d'une équipe des EDC, Bruno Batty, directeur de l'assurance maladie du Tarn-et-Garonne et membre d'une équipe des EDC, membre et responsable, et Camille Onmar, médiatrice et membre d'une équipe, elle, du MCC. On va vous redonner un tout petit peu la parole, Michel Martin Prével, pour commencer à introduire quelques outils, puisque des outils qui peuvent servir dans différentes réalités, que vous utilisez, je crois, dans l'accompagnement des couples. Voilà, je trouvais ça important quand même de parler des couples parce que on retrouve en entreprise ce qu'on vit aussi dans des réalités privées. Vous vouliez parler un petit peu de la CNV, la communication non violente, et d'un triangle, le triangle de Carpam.
Oui, ce sont des outils qui nous viennent des sciences humaines. Hein. C'est toute une approche de l'homme qui, heureusement, dans ces 50 dernières années, on a fait d'énormes découvertes. Donc on a des outils qui sont très très variés, qui peuvent servir, mais alors que comme des outils. De fait, la communication non violente, c'est essayer de comprendre les raisons d'un conflit, sans négliger les émotions, c'est ça qui est intéressant. Mais les émotions qui sont à gouverner. La communication non violente, c'est d'abord s'attacher à observer du côté des causes, donc ça c'est plutôt intellectuel, mais aussi à faire attention aux ressentis, aux sentiments, aux émotions que l'on a par rapport à ces causes, et puis ensuite arriver assez vite à définir des besoins et puis des demandes. Voilà, c'est ça un peu les étapes. Et ça, on voit bien que dans les résolutions des conflits, ça participe à aller aussi à se poser la question d'un accord. Il faut trouver un accord au final. Le triangle de Carpman, c'est beaucoup plus psychologique, c'est savoir que les personnes fonctionnent un peu trop souvent, soit en se mettant du côté d'un persécuteur, soit d'une victime, soit d'un sauveur. Donc c'est une espèce de gymnastique entre des rôles qui d'ailleurs quelquefois s'interchangent.
Dans lesquels chacun rentrerait plus ou moins,
chacun, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a une constitution de la personne qui a tendance à être plutôt dominatrice ou même persécutrice, ou au contraire se situer tout le temps en subordonnée ou en victime, et d'autres qui sont sauveurs, qui cherchent toujours à sauver les autres. Ce sont des comportements. Donc c'est intéressant de repérer ces comportements différents, parce que dans les conflits, on va avoir à jouer avec ces comportements-là. Il y a aussi l'analyse transactionnelle qui est un autre outil, où là c'est plus le vécu psychologique et intégré dans le moi, hein, qui se définit soit comme enfant, soit comme adulte, soit comme parent. Alors ça relève de la sphère familiale, mais en réalité c'est parce qu'on est construit comme ça à partir de notre histoire familiale. Et on va retrouver ça aussi dans des comportements professionnels. Donc voilà des façons d'appréhender, si vous voulez, ce qu'est l'homme dans sa structure elle-même psychologique, pour en tenir compte dans la façon dont les personnes interréagissent à propos de leurs conflits.
C'est bien, ça nous fait plein de thèmes d'émissions Vivante Église, même si on en avait fait une par exemple sur la CNV, on reviendra peut-être sur ces outils. On va commencer avec vous, Camille Onmar. Donc vous êtes médiatrice, juriste de formation. Expliquez-nous, c'est une profession qui est peut-être pas très bien connue. Il nous est arrivé de faire des émissions dessus, enfin au moins une. En quelques mots déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est un médiateur ou une médiatrice ?
Oui, alors déjà définir la médiation. La médiation, pour la définir de manière la plus simple possible, c'est un processus par lequel une tierce personne, extérieure au conflit, qui est indépendante, neutre, impartiale, va faciliter la communication entre deux ou plusieurs personnes en situation conflictuelle, dans le but à ce qu'elles trouvent elles-mêmes une solution à leurs différends. Donc le médiateur, ce n'est ni un juge, ni un arbitre, donc il ne va pas décider. Et il a uniquement pour rôle de faciliter la communication là où les personnes ont du mal à communiquer entre elles.
Donc ça, c'est pour la définition.
Ça, c'est pour la définition.
Du métier et de la médiation.
Exactement.
Donc il faut dire aussi que ça s'exerce dans différents cadres. Et vous, en l'occurrence, vous l'exercez dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de la médiation judiciaire, c'est ça, non ?
Alors, il y a deux types de médiation, conventionnelle et judiciaire. Conventionnelle, c'est simple. Il n'y a pas eu de procédure judiciaire. Donc, deux entreprises qui se battent entre elles décident d'aller voir un médiateur. Deux particuliers, pareil, pour prévenir, finalement pour gérer directement le conflit avant que on aille en procédure judiciaire. Là où la médiation judiciaire, on est déjà dans une situation où le juge a été saisi et le juge peut proposer aux personnes une médiation. Et dans ce cas-là, ça va suspendre la procédure judiciaire. On tente. Si on n'y arrive pas, la procédure judiciaire reprend son cours. Si on y arrive et qu'on parvient à un accord, c'est bon.
Alors, donc l'exercice de votre profession, c'est pas quand il y a des conflits donc, entre salariés, mais c'est quand il y a des conflits entre entreprises, c'est ça, des médiations commerciales, les deux.
En fait, le processus, ce qu'il faut savoir, c'est que le processus sera le même pour tout type de conflit. Le contexte sera bien évidemment différent, et le médiateur veillera au contexte et s'adaptera au contexte, mais que ça soit un conflit entre particuliers, entre deux collègues, deux sociétés, le processus sera quand même le même, et les étapes aussi.
Alors, ce cadre posé, vous nous disiez en préparant l'émission qu'il fallait définir ce qu'était l'outil et la différence avec les autres outils.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez refaire cette
Donc la médiation, en fait, figure parmi les modes amiables de résolution des différends. Donc, à côté de la médiation, il y a l'arbitrage. L'arbitrage, l'avantage, c'est que c'est un gain de coût et un gain de temps. Mais la tierce personne est un juge privé, finalement. Donc, à la fin, il va tenter de faciliter la communication, mais à la fin, il tranche le conflit. Un médiateur, a contrario, ne va pas trancher à la fin. Il va justement aider les principaux acteurs à ce qu'ils trouvent une solution à leur conflit. Ensuite, il y a la conciliation, et la conciliation est très proche de la médiation. Et c'est le problème, parce que même le législateur a tendance à les confondre. Quand on regarde dans les lois, souvent on voit les deux mots rassemblés ensemble, alors que c'est deux processus différents. Les conciliateurs de justice, c'est un petit peu les dérivés des juges de paix. Au moment de la Révolution française, il y avait les grands juges qui étaient chargés de trancher les affaires, et puis il y avait les petits juges qui avaient pour mission de concilier les personnes. Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les conciliateurs de justice, qui sont principalement des auxiliaires de justice. Et la conciliation se distingue de la médiation à plusieurs niveaux. Déjà, parce que le conciliateur l'exerce à titre bénévole. Donc, c'est déjà une première différence. Ensuite, généralement, le conciliateur va être plus proactif dans la recherche de la solution. Donc, il ne va pas non plus imposer une solution, mais il va être source de propositions pour les personnes. Là où, généralement, le médiateur est un peu plus en retrait.
Alors, quelle est la méthodologie, après? Et puis, est-ce que vous pouvez prendre surtout des exemples? Comment vous vous y prenez?
Oui. Alors, les grandes étapes...
Et prenons la question, en l'occurrence, la gestion des conflits d'entreprise. Donc, imaginons, conflits salariés-patron ou salariés
oui.
entre eux.
Tout à fait.
Quelle est la méthode? Vous arrivez, toc toc toc, bonjour,
déjà,
Camille Audemars.
Dans un contexte,
c'est la crise. Comment vous y prenez? Vous commencez par beaucoup sourire, j'imagine.
Alors le cadre, bien sûr, qui sera très important parce que les personnes vont arriver avec beaucoup de stress. Donc c'est important de véhiculer entre guillemets de bonnes énergies, ça c'est sûr, de leur permettre d'avoir du café à disposition, de l'eau, etc. Bon, ça c'est des choses basiques qu'on retrouve aussi en négociation.
Mais pour les choses basiques, est-ce que vous fixez comme règle aussi d'essayer de faire en sorte de résoudre les conflits en dehors du lieu de l'entreprise?
Je serais la première à dire, je privilégierais bien sûr un lieu qui soit neutre, et du coup, si on arrive à faire en sorte que ça soit en dehors de l'entreprise, c'est mieux, certes. En revanche, certaines fois, pour beaucoup d'entreprises, d'un point de vue logistique, c'est quand même compliqué. Donc, si on le fait en entreprise, parce que c'est plus simple pour tout le monde, d'accord, mais il faut à ce moment-là trouver un lieu qui soit le plus neutre possible. Si on a un conflit entre deux collègues, bien évidemment, on ne va pas faire la médiation dans leur salle de travail, on est d'accord, mais voilà, c'est essayer de trouver le lieu qui soit autant que possible neutre.
D'accord. Et alors après, donc la méthodologie. Donc vous arrivez, vous souriez, vous trouvez un lieu neutre.
Je ne fais pas que sourire, sinon ce serait trop simple. En entreprise, là où ça va être un petit peu différent, je pense que c'est quand même assez intéressant qu'il y ait une réunion d'information pour informer sur ce qu'est la médiation, pour que déjà on sache un peu de quoi on parle et qu'on puisse rassurer sur le fait que c'est un cadre sécurisant. Voilà, donc ça, c'est quand même une première approche qui est importante, d'informer les gens. Et donc, ensuite, le médiateur va commencer à parler, à poser le cadre, à poser les règles. Sachant que dans les règles, je vous en ai pas parlé, mais il y en a deux qui sont très importantes, ou peut-être trois. La première, l'écoute, bien évidemment. Mais c'est surtout un processus volontaire, donc la consensualité des personnes. La médiation ne peut pas marcher si une personne n'est pas volontaire au processus. Je pense que c'est du bon sens pour tout le monde.
Donc ça ne peut pas être imposé par le chef d'entreprise.
Exactement.
Alors, comme on n'a pas toute l'émission pour en parler, si vous pouviez résumer les différentes étapes du processus.
Non, très important, parce que ce qui va rassurer les gens, c'est le fait que les échanges sont confidentiels. Ils ne vont pas sortir de la salle. Voilà,
d'accord.
Ça, c'était la chose que je voulais rajouter. Dans les grandes étapes, le cadre posé par le médiateur.
Et ensuite, prenez un exemple peut-être en même temps, si c'est possible.
Oui, de cadre.
Prenez un exemple de gestion de conflit que vous avez travaillé à essayer de résoudre ou à accompagner, et en même temps, nous détaillons les étapes peut-être du processus.
Oui.
Ça donnera de la chair à votre propos.
Prendre l'exemple, par exemple, d'un conflit entre deux anciens associés experts comptables. Qui ont collaboré ensemble pendant plus d'une dizaine d'années, donc une relation quand même assez importante et en même temps très conflictuelle, parce qu'on était face à une personne qui était quand même plus manipulatrice que l'autre. C'est que ça fait partie aussi des difficultés qu'on peut relever en médiation quand on est face à des personnes de mauvaise foi, manipulateurs, etc. Donc ça, c'était aussi un peu compliqué à gérer. Mais on commence par un premier tour de table où les personnes vont exposer un peu leur version des faits. Donc on pose les choses sur la table. Et après, le rôle du médiateur, ça va être de reformuler ce que chacun a dit de manière à ce que l'autre puisse l'entendre d'une manière plus distante. À partir de ce moment-là, on va commencer à rentrer, on va traverser le conflit. Parce que les personnes commencent à parler, les autres entendent certaines choses qui ne leur plaisent pas, on interprète mal et donc le conflit commence à s'envenimer. Ce qu'il faut savoir, généralement, en entreprise, on a tendance à étouffer le conflit. Le but de la médiation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de l'étouffer. C'est une manière qui, pour moi, je trouve est mauvaise de gérer le conflit. C'est plutôt de le traverser. Donc, de lui laisser sa juste place,
mais juste
envenimer les choses. Bien sûr, il ne faut pas arriver à des cas de violence, etc. Mais tout en laissant certaines personnes exprimer certaines choses qui sont importantes pour elles. Donc, pendant cette phase-là, souvent on tourne en rond, parce que chaque personne va venir avec ses positions, et le but du médiateur, ça va être de les aider à faire basculer de leur position vers leurs intérêts et surtout leurs besoins. Et là, on retrouve effectivement les techniques de CNV.
Voilà, le propos, c'est aussi que chacun, petit à petit, arrive à entendre ce que l'autre a à dire, on imagine, non ?
Exactement, et ça, c'est avec l'aide du médiateur.
Voilà, et en l'occurrence, là, comment ça se finit après ?
Est-ce qu'on
trouve un accord ?
On structure, en fait, les points de désaccord. Une fois qu'on a déblayé le terrain, on structure en se disant, bon, en fait, vous n'êtes pas d'accord sur tel point. Donc, on crée un agenda. Et petit à petit, on commence à échanger sur chaque point de désaccord et on essaye de développer des options pour, in fine, essayer de parvenir à un accord.
Voilà.
Mais le but n'est pas forcément de trouver un accord. Le but, c'est vraiment de rétablir la communication. Mais la plupart du temps, quand cela se fait, les personnes finissent par se dire « Non, mais là, je pense qu'on peut trouver une solution qui nous convienne. Voilà. »
Dernière question. C'est pas trouver la troisième solution. C'est souvent ça qui fait l'accord.
Oui.
C'est sortir de deux positions antagonistes et chercher la troisième. Ce qu'on appelle une synthèse, un peu, c'est ça ?
Oui.
Oui.
Dernière, on va passer à Bruno Batty, et puis on reviendra peut-être après sur la médiation, où vous aurez peut-être des réactions l'un et l'autre. Bruno Batty, comme directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie, déjà, est-ce que vous avez une première réaction à ce qui a été dit, particulièrement à ce qu'a pu dire le père Michel Martin-Prével, en essayant de mettre en perspective cette réalité? Quand on est directeur, on se dit, de toute façon, mon job, ça va être d'apprendre à gérer les conflits, j'imagine, non?
Alors, les conflits en entreprise, ils sont beaucoup plus fréquents qu'on ne pourrait le penser a priori. Ce que je voulais dire en préalable, c'est que nous sommes peu préparés à la gestion des conflits. Alors ça dépend des milieux, hein. Il y a des entreprises qui sont plus en avance que d'autres sur la gestion des conflits. Dans le milieu de la sécurité sociale, je dirais qu'on reste assez des boîtes assez traditionnelles sur le management, même si on évolue beaucoup ces derniers temps, beaucoup, beaucoup. Hein. J'ai un projet d'entreprise, je rentre dans la deuxième phase de ce projet d'entreprise et en ce moment... On est beaucoup, beaucoup sur justement ces progrès à faire en management. Mais il y a quelques années encore, les managers de terrain étaient très peu préparés à la gestion des conflits, à détecter, anticiper, gérer les conflits avant qu'ils n'éclatent.
Voilà, il faut les détecter, c'est ça, déjà, pour
c'est
commencer.
Hein.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de prévention quand on est chef d'entreprise.
Il y a un vrai travail de prévention qui, très honnêtement, n'avait pas été réalisé jusque-là.
Et ça veut dire quoi, le travail de prévention ? C'est régulièrement, vous allez un peu sonder les salariés pour voir quelle est la température, c'est ça ?
Alors, on va sonder les salariés collectivement, déjà, pour voir quelle est la température. Et parfois, ça peut donner lieu à de désagréables surprises, hein, avec une expression assez violente, mais moi je l'ai fait il y a quelques années, et bon, évidemment ça fait jamais plaisir, mais c'est nécessaire. À un moment donné, il y a un exutoire qu'il faut, voilà.
Donc c'est quoi, c'est une fois par an à l'occasion du fameux entretien annuel ou...
Non, c'est pas une fois par an, c'est-à-dire qu'on peut avoir faire passer, je dirais, un questionnaire assez... assez précis au niveau de l'attitude au travail, la relation au management, la responsabilité, l'implication, est-ce que je m'ennuie au travail, est-ce que mes conditions de travail sont agréables, est-ce que je peux concilier vie familiale, vie professionnelle, etc. Voilà. Donc ça peut donner effectivement lieu, alors qu'on a le sentiment, nous dirigeants, parce qu'on n'est pas sur le terrain et que les managers ne sont pas forcément formés à anticiper, à faire remonter tout ça, qu'on peut avoir effectivement de mauvaises surprises.
L'impression que tout va bien. Alors, vous aviez un exemple que vous vouliez nous partager. Oui. Donc, dans l'exercice de votre profession et de vos responsabilités, vous avez fait face donc, à une dispute violente entre des salariés, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et vous avez dû accompagner cette réalité. Comment est-ce que vous pouvez nous dire quel était le contexte précis et comment vous y êtes pris?
J'arrive un beau matin au travail et mon proche collaborateur m'apprend qu'il y a eu une dispute violente la veille au soir dans un service, que cette dispute s'est continuée dans la rue, avec des cris, etc.
Avec des coups ou non, quand même pas.
Il n'y a pas eu de coups, mais enfin ça a été... Bon, ça a,
les
ça
mots
été,
sont parfois ça, des
ça,
coups.
Ça a été très limite et les mots peuvent être assez violents. Et il dit qu'à ce moment-là, les collaborateurs sont très agités dans le service, que l'ambiance n'est pas au travail. Et je lui demande d'ouvrir immédiatement une enquête. Et il auditionne tous les collaborateurs de ce service individuellement. Il ressort de ces auditions que le conflit est né dans une petite unité du service. Une collaboratrice est pointée du doigt assez rapidement. Il s'avère que c'est une personne qui donne toute satisfaction, qualité, productivité, sont au rendez-vous. Mieux encore, elle a des résultats bien supérieurs à la moyenne du service. Les personnes qui dénoncent avoir été agressées par cette personne sont en décalage dans leurs propos par rapport au témoignage de l'entourage. La personne désignée comme l'agresseur, elle va tenir des propos assez modérés au niveau de son témoignage, sobre vis-à-vis de ses collègues de l'unité qui la dénonce.
Alors ça, c'est pour le cadre. Après, comment vous y êtes pris pour essayer de résoudre ça, en fait? Vous avez fait appel à un médiateur, en l'occurrence, ou...
Alors, disons qu'à l'époque, on n'était pas du tout dans cette...
À l'époque, c'était il y a 10 ans, c'est ça?
Oui, c'était il y a 10 ans environ. Hein, donc, on était très loin de gérer les conflits de la manière dont on vient de l'exprimer.
Juste, vous faites oui de la tête, Camille Audemars, parce que votre profession est une profession un peu émergente, c'est ça, et très récente?
À la fois oui et à la fois non. On va dire plutôt que son développement a été très lent. Mais voilà, les premières lois de la médiation judiciaire datent des années 90. Entre les années 90 et aujourd'hui, il y a eu un processus très lent pour le développer. Là, en ce moment, je trouve qu'on est dans une phase où ça se développe de plus en plus. Les entreprises y voient un intérêt aussi en termes de stratégie. Les particuliers aussi également. Enfin, c'est vrai que c'est difficile pour nous, la France, parce que on est dans une culture du conflit, là où d'autres pays sont dans une culture du compromis, donc ça leur parle plus facilement. Pour nous, le travail était plus difficile, je pense, lié à notre culture. Mais...
Les entreprises y voient leur intérêt pour préserver le bien commun, comme dont vous parliez tout à l'heure, Père. Donc,
résumez du coup la manière dont ça s'est réglé.
Le responsable de service était très gêné. Par ailleurs, au décours des auditions, on apprend que les conditions de travail du service sont pas évidentes. Manque d'éclairage, bureau aligné en rang d'oignon, peu de communication entre les gens, le bureau du responsable de l'unité au milieu du groupe, donc impossible de recevoir pour des entretiens confidentiels, impossible de s'isoler pour faire le reporting, donc difficile pour lui aussi. Et une certaine monotonie dans le travail. Et à la lecture du rapport, il y a deux propositions. Sanctionner l'agresseur, d'une part, et travailler avec le collaborateur du service pour repenser le travail. Donc ça peut passer par des choses extrêmement concrètes. Hein, passer un coup de peinture pour donner un coup d'éclairage, refaire l'éclairage, redispositionner les bureaux, de faire des points de rencontre pour travailler sur un dossier, bref, mettre de la communication.
Donc là, la manière dont vous êtes sorti, c'est ce que vous nous disiez, c'est que à la fois la personne a été sanctionnée, mais la sanction a été légère, et en même temps, tout le monde a essayé de sortir par le haut du conflit.
Alors, si vous voulez, et c'est encore un peu le travers de nos entreprises, c'est très français, la gestion du conflit, elle est rigidifiée un petit peu par les textes, les conventions collectives, c'est ce que je regrette. C'est-à-dire que on passe inévitablement par, alors c'est pas une mauvaise chose non plus, ça fait partie de la démocratie dans l'entreprise, mais on passe inévitablement par les instances représentatives du personnel. Alors ces instances représentatives, elles sont élues, elles sont là pour gérer les conflits, etc. Mais elles restent quand même, pour certaines d'entre elles, dans une position quand même assez frontale vis-à-vis de la direction, et pointent facilement du doigt que si on en est arrivé là, c'est un échec et que, quelque part, la direction en est responsable.
Donc
et puis, les managers le sont aussi,
Donc
ça rajoute une difficulté à la difficulté, et en l'occurrence, s'il y avait des personnes qui se disaient agressées, il fallait, quelque part, sanctionner l'agresseur. Et c'est là que ça va être un petit peu difficile, parce que le responsable de service m'a fait son rapport d'enquête, et lors de la réunion avec les délégués du personnel, où on va convoquer l'agresseur en vue de la sanction, on va lire le rapport, avoir le témoignage, demander à la personne de s'expliquer, faire sortir la personne, et ensuite échanger avec les délégués du personnel qui vont d'un côté ne pas vouloir qu'on sanctionne trop l'agresseur, en même temps que
alors juste on en vient à la conclusion,
on n'est pas très à l'aise sur le reste.
Voilà, la conclusion, c'est que vous avez décidé donc de faire une qu'est-ce que vous retirez en fait de cette expérience?
J'ai décidé d'aller sur une sanction la plus légère dans l'ordre des sanctions, simple avertissement,
c'est ce que je disais, oui. Et après,
mais de sortir par le haut en allant sur le terrain, le second terrain, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de travail, pour essayer de tourner rapidement une page qui n'était qu'un épiphénomène et essayer
alors
de
vous,
sortir
à titre personnel, quelle leçon vous tirez en fait de cette expérience? C'est-à-dire, vous vous dites que pour faire face au conflit, vous êtes obligé à une certaine méthodologie, comme vous le disiez au début de l'émission, au début de votre intervention, c'est-à-dire à essayer de prévenir, à essayer de vous former, à essayer de faire en sorte de développer à l'intérieur de votre entreprise une culture de la gestion du conflit ou pas?
Alors la première formation, elle commence par celle du chef d'entreprise, pour prendre conscience que son management est parfois bien seul face à la gestion des conflits. Donc, que son management a besoin de soutien, parce que le management est soumis à ce qu'on appelle les injonctions paradoxales. Il est pris un peu dans le sandwich, entre les objectifs que va lui donner sa direction, et puis de l'autre côté, la poussée des troupes, qui ne va pas forcément, d'abord, être d'accord, être suffisamment accompagnée, formée, compétente, pour arriver à tout cela. Donc ça, il faut qu'on en ait conscience, nous, dirigeants. Et ensuite, il faut que nos managers soient formés à l'anticipation et à la gestion des conflits pour éviter que ça nous remonte et que ça nous éclate, ça nous saute à la figure.
Et également accompagner.
Sans coup férir. Et accompagner.
Michel Martin Prévert,
oui, le fin du fin, c'est de chercher dans un conflit ce que l'on va pouvoir en tirer de bon. Et ça, c'est très, je dirais, c'est divin. C'est chercher à partir du mal à chercher du bien. Ça, c'est génial.
Et ce service n'a jamais été aussi bien qu'après ce conflit, finalement. Et on y a gagné en productivité et en préservation du bien commun.
On va faire une deuxième pause. Merci pour l'illustration. Et puis on va passer, à moins que vous ayez d'autres réactions, on prendra un tout petit peu le temps, à vos coups de cœur et à vos coups de gueule en lien avec l'actualité économique et sociale.
Thank you.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Vie d'entreprise et gestion des conflits, c'est pour rappel pour ceux qui par hasard nous prendraient en cours d'émission. Le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau, Camille Audemars qui est médiatrice, membre d'une équipe du MCC, Bruno Batty, directeur de l'assurance maladie du Tarn-et-Garonne et membre d'une équipe des EDC, Michel-Martin Prével, prêtre religieux et accompagnateur d'une équipe des EDC. Alors, comme à chaque fois, on finit par un coup de cœur et un coup de gueule en lien avec l'actualité économique et sociale. Et j'avoue que je suis content de l'exercice parce que je me rends compte que on ne lit pas tous les mêmes choses, loin s'en faut. À chaque fois, j'ai des bonnes surprises. C'est des choses dont j'ai absolument pas entendu parler, presque toujours. Et puis, on va dire peut-être moins de l'information mainstream, comme on dit. Alors, on va commencer avec vous, Camille Audemars. Vous vouliez commencer donc par tirer un coup de chapeau à une médiation en cours qui a été proposée donc par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, si j'ai bien compris, ou de la Banque de France, non, qui pousse deux mutualistes à essayer de s'entendre, Score et Covéa. Alors expliquez-nous pour les néophytes que nous sommes.
En tout cas, ça faisait 9 mois qu'ils étaient en plein conflit et qui, depuis janvier, il me semble, ils étaient rentrés dans une procédure judiciaire et ils ont décidé de désigner deux médiateurs. Donc voilà, la société Covéa en a choisi un, la société Score en a choisi un autre. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer que ces deux médiateurs soient formés aux techniques de communication et aux processus parce que cela ne s'invente pas. Mais en tout cas, la démarche en tout cas est la bonne.
Donc c'est deux grandes entreprises mutualistes. Covéa, j'ai vu que c'était GMF, MMA et la MAF, c'est ça ?
Exactement, c'est une société de groupe d'assurance mutuelle française et la société Score est un groupe de réassurance. Voilà. Donc c'est l'assurance des sociétés d'assurance.
Et Covéa avait fait part de son intention donc de lancer une offre publique de 8 milliards d'euros sur Score. C'était en 2018 et en fait les deux patrons ne peuvent pas s'encadrer. Denis Kessler, PDG de Score, et Thierry Derès, celui de Covéa. Donc issue heureuse en l'occurrence, il faut que les pouvoirs publics interviennent. C'est-à-dire que la médiation, ils ne l'ont pas décidé d'eux-mêmes, on leur a un peu imposé, non ?
Elle peut être initiée par d'autres personnes autour, mais elle peut être initiée également par les entreprises elles-mêmes.
Voilà, oui. Donc, il peut y avoir un tiers qui demande la médiation, comme
exactement,
dans le cadre.
Exactement, c'est ce qu'on va appeler un prescripteur.
Ça, c'est pour le coup de cœur. Alors, comme on a un tout petit peu de temps, oui, allez, vous aviez un autre coup de cœur,
oui.
Rapidement. Qui, pour le coup, je n'avais absolument pas entendu parler.
Alors, c'est à La Hague, 40 km à l'ouest de Toulouse, où l'école de la transition écologique Être propose depuis 2017.
Alors déjà, c'est quoi l'école de la transition écologique ?
Alors, pour être honnête, je ne connaissais pas avant d'avoir vu l'information.
D'accord.
Mais ce que je sais, c'est qu'elle propose depuis 2017 des formations pour les jeunes qui sont en rupture avec le système scolaire. Donc, les jeunes ont généralement entre 16 et 25 ans. Et donc, grâce au métier de l'environnement, ces jeunes-là vont reprendre confiance en leur potentiel et en leur avenir. Voilà, je trouvais que c'était une belle initiative.
Voilà, c'est un peu les apprentis d'Auteuil version verte.
Ce qu'il
pour
faut
ceux
savoir,
qui sont...
d'autant plus, c'est qu'en France, près de 100 000 jeunes par an sortent du système éducatif sans diplôme. Voilà. Donc ça répond à
ça, c'est temps. Pour le coup de cœur. Vous en aviez un autre, Bruno Batty, qui était en lien avec la médiation et qui concerne les plus petits. Racontez-nous.
Oui, les expérimentations menées dans les écoles qui confient aux enfants, en fait, la résolution des conflits entre camarades dans la cour de récréation.
Ce qui est assez récent comme initiative.
C'est assez récent comme initiative et j'ai trouvé ça vraiment très, très original. En plus, j'écoutais à la radio les témoignages des enfants qui ont vraiment... dont la maturité me surprend. Et je me dis, coup de chapeau, et à quand l'application dans les collèges, qui sont terrain de beaucoup de violence et de harcèlement.
Voilà, Camille Anmar.
Pour ajouter, donc, ce dont il parle, c'est ce qu'on appelle la médiation par les pairs. C'est de plus en plus développé au sein des écoles maternelles, collèges, lycées, etc. Et on forme les jeunes à être des médiateurs eux-mêmes, et on va leur donner des brevets. Ils vont être représentés à la cour de récréation avec des gilets jaunes.
Gilets jaunes, j'ai vu ça, oui, ça m'a beaucoup fait sourire.
Mais ils vont être, et ce sont les mieux à même pour résoudre les petits conflits à la récréation. Donc la démarche est très bonne.
C'est mieux à même, oui. Enfin, il fallait faire le pas de leur faire confiance.
Et hein. Ça marche mieux qu'avec les adultes,
c'est
évidemment.
Ça.
Oui. Alors de là à dire qu'il y aura des enfants gilets jaunes demain dans les entreprises, il n'y a qu'un pas. Mais peut-être que ça ferait du bien à certains. Allez, les coups de gueule. Vous vouliez commencer, Bruno Batty, par un coup de gueule. L'association 60 millions de consommateurs qui a testé 130 produits bio et dénonce des montagnes de promesses. Alors, ce n'est pas très politiquement correct. Votre coup de gueule, expliquez-nous.
C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des produits avec l'étiquette bio, pas si bio qu'on veut bien le dire. Alors certes, ce sont par exemple des volailles à qui on va donner de la nourriture complètement bio. Mais le problème, c'est qu'elles sont élevées dans un environnement pollué et qu'on va retrouver sur les œufs et sur la viande des choses qui ne sont pas très bonnes pour le consommateur, quoi, l'organisme.
Et alors, votre coup de gueule, c'est quoi? C'est juste que vous trouvez qu'on en fait trop sur le bio ou qu'il ne faut pas pêcher par naïveté?
Faut pas pêcher par naïveté, qu'il va falloir commencer à effectivement être très vigilant sur la mode du bio, parce que certains sauront en tirer parti de manière pas très honnête, quoi.
Le bio, c'est, on va dire,
être vigilant.
C'est une solution. Enfin, comment dire, c'est l'avenir, mais ça n'empêche pas qu'il faut en effet être vigilant. Alors, on va finir avec votre coup de gueule, Camille Onmar. Votre coup de gueule, c'était en lien justement avec l'écologie. Alors, je vais vous citer et puis je vais vous laisser vous expliciter, parce que pour ne rien vous cacher, je vous ai trouvé un tout petit peu expéditif. La France n'est pas préparée au choc climatique qu'elle subira d'ici 2050. De multiples rapports ont été remis, mobilisation des jeunes et une conscience écologique qui se développe dans le pays, et pour autant, où en est l'agenda du gouvernement? Alors, dites-nous votre coup de gueule, avancez vos billes, parce que moi j'en ai d'autres.
Alors, d'après des rapports manifestement précis qui ont été remis par des experts du monde entier au gouvernement, d'ici 2050, il s'agirait de l'effondrement de la civilisation humaine. Je ne suis pas une experte en la matière, je ne dirais pas... je ne veux pas m'exprimer là-dessus. J'avais juste envie de dire qu'effectivement, je pense qu'on peut faire confiance éventuellement à nos experts et que ce serait bien que ça rentre dans la priorité...
Et vous ne trouvez que ça n'est pas assez le cas, en fait. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand chose qui est fait.
Oui, tout à fait.
Voilà. Alors, ça demanderait nuance, si je peux me permettre.
Avec plaisir,
voilà.
Pour discuter.
Je me permettrais juste, pour essayer d'être un tout petit peu équilibré et juste, même si ce serait l'objet d'une émission, de rappeler que, quand même, Emmanuel Macron, on peut lui reprocher probablement un certain nombre de choses sur le sujet, et je ne suis pas là pour essayer de résoudre le conflit, mais ne serait-ce que dans le programme de La République En Marche, des dernières élections, on pouvait trouver un certain nombre d'engagements. Je vais pas les détailler, mais ça demanderait probablement à être mesuré. Michel Martin-Prevel, est-ce que tout ça donne lieu à une dernière réaction avant qu'on finisse l'émission ?
Oui, moi j'aimerais qu'on signale, on va arriver à la Pentecôte. Il y a une chose qui est très importante, c'est le don de sagesse dans les conflits. Et je voudrais citer La Rochefoucauld qui disait « Les querelles ne dureraient pas longtemps si le tort n'était que d'un côté ». Et ça rejoint la mentalité française. Peut-être on est un peu trop dans le blanc ou noir. Et le don de sagesse, c'est de faire la part justement des choses. Et le président Kennedy aussi disait ne pas régler les conflits avec des peurs, mais ne pas avoir peur de régler les conflits.
Alors répétez-nous les deux citations.
Ne pas négocier avec des peurs, mais ne pas avoir peur de négocier. Il faut donc du courage pour négocier. Et il faut surtout être prêt à lâcher quelque chose. Le pape François dit qu'il ne faut pas abandonner ses opinions, mais il faut abandonner le fait que notre opinion est absolue. Alors le relativisme, c'est autre chose, mais ne pas rester dans l'absolu, je crois que c'est une très grande qualité, justement, pour régler des conflits.
Voilà, qui demande une certaine souplesse.
Et, oui. Alors demandons l'esprit de sagesse, voilà, c'est le moment.
Merci à tous, cette émission a été, et merci au MCC et aux EDC de, voilà, d'avoir proposé donc cette émission en partenariat avec eux, émission qui ne continuera pas l'année prochaine, mais il y aura bien d'autres occasions d'inviter des membres des EDC du MCC. Un grand merci à vous, cette émission a été réalisée par Océane Soulier, vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.